Je vois mes amis de Lyon, de Belgique, de France. Que Dieu vous bénisse particulièrement. Nous sentons que le lien entre nous devient de plus en plus intime. Et intime, donc, oui, affectueuse. Et nous nous réjouissons chaque fois que nous pouvons nous saluer. Même si la langue constitue parfois une petite barrière. Mais l'amour de Dieu surmonte tout. Surmonte tout. Je me suis réjoui de chaque témoignage. Cela prouve que Dieu est à l'œuvre. Dieu appelle les siens à sortir. Et je crois que je l'ai déjà dit. Ici, nous recevons souvent des lettres de quelque part dans le monde. De la royauté d'Aman ou d'Oman ou de Bahreïn ou d'ailleurs, ou de pays islamiques où nous ne sommes pas encore allés, mais les brochures sont arrivées là-bas. Et tout à coup, elles se sont retrouvées quelque part dans une poubelle de l'aéroport. Et celui qui avait des ordures à nettoyer voit la brochure. Et voici que Dieu lui parle. Par la brochure, et lui a plané le chemin du salut. Si nous voulions témoigner des voies de Dieu, nous devrions écrire. Nous devrions dire comment tes voies sont incompréhensibles, mais glorieuses. Il conduit les siens de manière merveilleuse. Maintenant encore la parole du prophète Ésaïe. Dieu voulait donner un nouveau nom. Nous ne sommes pas seulement d'un point de vue terrestre des fils et des filles ou des descendants naturels d'Abraham. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Je vous le lis dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau. Un nom nouveau. Que personne excepté celui qui le reçoit ne connaît. Un caillou blanc. Avec dedans un nom nouveau que personne ne connaît. Sauf celui qui le connaît, qui le reçoit, pardon. Bien-aimés, je l'ai dit et répété, quand on voit et trouve le lien de l'Ancien au Nouveau Testament et du Nouveau à l'Ancien, la concordance absolue, le même langage qui est parlé, les mêmes pensées qui sont exprimées, c'est tout simplement merveilleux. Des hommes saints ont parlé de la part de Dieu, poussés par le Saint-Esprit. Et maintenant, il y a des hommes sur terre qui reçoivent la Sainte Parole et qui sont sanctifiés dans cette vérité divine. Et nous reconnaissons l'importance de la parole de Dieu, car toutes choses sont devenues, ont existé par la parole. Dieu a parlé et cela a été créé. Il a ordonné et cela a été là. a apparu. Et comme le dit si bien frère Branham, la parole de Dieu n'a pas besoin d'être interprétée. Mais ce que Dieu dit arrive. Il était écrit, j'enverrai un messager devant moi. Soudain, la parole s'est accomplie. Le Messie avait été promis. Il était soudain là. L'effusion de l'Esprit avait été promise. Elle est arrivée soudainement. Le salut était promis aux nations. Ésaïe 42, verset 6. Ésaïe 49, verset 6. Je ferai de toi la lumière des nations pour que tu deviennes salut jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons lu le concernant le salut dans Ésaïe 56. Nous pouvons continuer à lire dans la lettre aux Éphésiens au premier chapitre au verset 11. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, nous avons donc aussi été rendus participants de la promesse, participants de la possession du salut, ayant été prédestinés à cela selon le dessein de celui qui accomplit tout selon le décret de sa volonté. Éphésiens 1, verset 11. Selon le décret de sa volonté. Il a son propre décret. Son propre dessein. Il ne consulte personne. Avant que le monde ne soit, Dieu existait déjà. Dieu existait et Dieu avait un plan. Un plan pour l'humanité, avec l'humanité. Et nous pouvons faire partie de son plan avec l'humanité. Nous pouvons faire partie de ça. Nous pouvons être une partie de sa parole. Et comme l'a dit le frère Baranowski, on peut parler beaucoup, même discuter de ce qui a été dit. Mais on peut aussi devenir une partie de la chose. On peut naître dans la chose. On peut être baptisé dans la chose par le Saint-Esprit et devenir participant de la nature divine. Ainsi, beaucoup sont pieux, religieux. Il y a aussi beaucoup de philosophie dans le domaine religieux. Mais il y a aussi des gens qui sont destinés à entendre la parole de Dieu, la parole du Seigneur en ces jours. Et ce sont ceux qui sont prédestinés à cela. Parce qu'ils font partie du plan de Dieu. Ils sont une partie du plan de Dieu. Nous ne serions pas du tout ici aujourd'hui. Nous aurions de tout autre intérêt ailleurs. Nous suivrions la voie large avec la grande masse. Mais Dieu nous a choisis. Nous a élus. Dieu nous a appelés à un objectif bien précis. Celui qui est élu croit en l'élection. Celui qui est prédestiné croit à la prédestination. Celui qui est déterminé à être justifié, destiné à être justifié, celui qui est prédestiné, celui qui est destiné à être justifié, croit à la justification divine. Celui qui croit être sanctifié sait que sans sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Celui qui croit à la sanctification sait que sans sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Et nous permettons ainsi au Seigneur de nous sanctifier, d'accomplir une consécration divine en nous. Pas une hypocrisie, une apparence de sainteté, mais vraiment une sainteté qui vient de Dieu, qui est valable devant lui. Pas une sainteté où le nez pointe vers le haut, où l'orgueil est visible, mais une sanctification, être sanctifié. humble dans la présence de Dieu lui-même, sachant que tout n'est que grâce. Et la grâce ne se mérite pas. On ne peut pas la mériter. La grâce est un don de Dieu. Un don de Dieu. Et le Seigneur dit, je ferai grâce à qui je fais grâce. Nous avons parlé des promesses et il nous apparaît toujours plus grand que nous vivons en effet de ces promesses-là, que notre foi y est ancrée parce que nous avons reçu en nous ce que Dieu a dit. Attendons à juste titre que cela s'accomplisse. Nous pourrions lire dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, versets 5 et 6. À vous qui par la puissance de Dieu être gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Comment sommes-nous préservés? Par la puissance de Dieu. Par la foi. Parce que nous sommes destinés au salut qui doit être révélé dans les derniers temps. Le verset 6 dit ici, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Par diverses épreuves. Je dois continuer à lire. Il faut que je lise encore. C'est en effet par là que l'authenticité de votre foi doit être éprouvée et qu'elle doit être trouvée plus précieuse que l'or, qui est corruptible, mais dont l'authenticité est éprouvée par le feu et qu'elle doit se manifester à la louange, à l'honneur et à la gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Lors de la révélation de Jésus-Christ. Lors de la révélation de Jésus-Christ. Nous l'attendons. Il s'est révélé à nous par l'Esprit. En esprit déjà. Mais nous attendons le jour où le même Jésus, ce même Jésus qui est monté au ciel, reviendra et où nous le verrons et serons changés à son image. C'est la promesse et nous en ferons l'expérience. Et ce sera à la gloire et à l'honneur de son nom lors de la révélation de Jésus-Christ. Ni plus tôt ni plus tard. Jean écrit déjà dans Apocalypse 1, révélation de Jésus-Christ, il a vu le Seigneur, parce qu'il a vu le Seigneur dans sa majesté, Apocalypse chapitre 1, tel qu'il viendra dans sa royauté. Il l'a vu déjà changer, il l'a vu transfigurer, comme sur la montagne de la transfiguration. Il se prosterna pour l'adorer. Et le Seigneur a dit, j'étais mort. Et voici que je vis pour toujours. Que je vis éternellement, pour toute éternité. Et je détiens les clés de la mort et de l'enfer. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En ce lieu, nous ne pratiquons pas la religion. Nous ne pratiquons pas la religion. Et nous ne nous réunissons pas. Nous ne nous réunissons pas. non plus pour avoir uniquement des conversations, pour avoir des conversations religieuses. Pour moi, ce sont des heures de préparation. Des heures de préparation pour l'éternité. Pour l'éternité. Je crois que c'était notre frère de Salzbourg qui a dit que certaines choses étaient devenues nouvelles ou grandes pour lui. Je pense qu'il en va de même pour nous tous. Il n'y a pas de prédication dans laquelle Dieu ne nous éclaire ou ne nous ouvre pas quelque chose de nouveau. Chaque prédication de la parole nous rend l'ensemble du programme de Dieu plus clair. Nos yeux sont ouverts. Nous voyons, nous entendons, nous recevons, nous croyons et nous devenons de plus en plus une partie de ce que Dieu fait, de la cause de Dieu, jusqu'à ce que tout soit finalement parfaitement coordonné, jusqu'à ce que l'ombre et la réalité se rencontrent. Oui, jusqu'à ce que les fils de Dieu soient révélés. Juste encore une parole. 1 Pierre chapitre 1. Pardon, 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Chapitre 1. Il s'agit pour moi aussi de l'importance des promesses. Au verset 4. C'est par elle qu'il nous a donné, en nous assurant de sa part, les plus grandes promesses précieuses et extrêmement importantes, afin que par elle vous échappiez à la corruption qui règne dans le monde par suite de la convoitise des sens et que vous deveniez participants de la nature divine. C'est pourquoi il faut aussi que vous mettiez tout votre zèle à joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance et à la persévérance la béatitude divine l'amour fraternel. Et à l'amour fraternel, l'amour pour tous les hommes. Cela monte toujours plus haut et va toujours plus profond. Et Dieu veut opérer toutes ces choses en nous. Dieu veut que tout cela se produise en nous. Rien ne doit manquer. Si nous avons pris part à la nature divine, nous avons alors la foi. La foi, comme le dit l'Écriture, parce que nous sommes par la nature divine devenus une partie de la parole elle-même. Nous ne pouvons rien faire d'autre que de croire la parole, parce que nous avons été destinés à cela. Et si toutes les vertus sont énumérées, les vertus, y compris la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance et la béatitude divine et l'amour fraternel, puis l'amour pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Dans le sermon de Frère Branham, j'ai fait une comparaison avec Joseph et ses frères parce qu'il était spirituel, parce que Dieu lui montrait et lui révélait des choses. Ses frères étaient jaloux. La jalousie s'est installée. Et frère Branham dit ici, il le haïssait parce que Dieu s'occupait plus de lui que du reste d'entre eux. Mais qu'en pouvait-il? Dieu avait fait en sorte, Dieu... qu'il en soit ainsi, Dieu avait voulu les choses. Ainsi, il avait prévu quelque chose de spécial avec lui, c'est-à-dire faire en sorte que tous survivent. Et l'un d'entre eux devait prendre les devants pour ensuite remplir les sacs lors de la grande famine afin que les autres puissent survivre. Dieu a toujours eu des moyens et il en aura jusqu'à la fin. Et vous savez très bien que lorsque Joseph se révéla ensuite à ses frères, ils se mirent à pleurer et eurent très peur. Et il leur a dit calmement, « Ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui a fait cela pour vous garder en vie. » Peut-on alors comprendre là les voies de Dieu? Qu'est-ce que Joseph a dû endurer? Tout simplement parce que Dieu avait un projet avec lui. Mais à la fin, il s'est avéré que la main de Dieu était avec lui. Cela se manifestera aussi à la fin dans l'église épouse. Pourquoi le monde entier était-il contre frère Branham? Pourquoi le diable n'a-t-il pas choisi un autre? N'a-t-il pas choisi un autre évangéliste? Il y en avait eu des centaines. Il y en a un qui voulait même devenir président des États-Unis. Il y a eu suffisamment de gens comme ça, des évangélistes. Pourquoi s'agissait-il d'un seul? Parce que Dieu l'avait choisi. Parce que Dieu l'avait désigné pour un but particulier, un objectif particulier. Parce que Dieu lui avait parlé avec lui. Il lui avait dit, retourne à la chapelle et emmagasine la nourriture. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est par grâce que nous pouvons survivre. Frère Branham parle de la jalousie. Cette citation, la vieille jalousie sale. Il n'y a pas de pureté dans la jalousie. Ce n'est que de la jalousie sale. Vous ne pouvez pas en juger ainsi, n'est-ce pas? Mais celui qui ressent de la jalousie est directement confronté à la vengeance de Satan. La jalousie est une mauvaise chose. Le diable s'en donne à cœur joie. Avec un cœur joyeux. Mais nous sommes tellement reconnaissants à Dieu que nous savons que toutes les hostilités ne viennent pas de Dieu, mais qu'elles viennent de l'ennemi. Et sont admises et permises comme épreuves. Mais nous suivons notre chemin avec Dieu. Et cela jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Ensuite, frère Branham parle de la conformité de l'accord dans chaque domaine. Dans la famille, la conformité à la parole. Dans l'église, la conformité à la parole. Puis il dit, si une femme mariait un homme et n'était pas en accord avec lui, il y aurait constamment des désaccords. Mais si un homme et une femme sont amis, sa fiancée, s'ils sont en parfaite harmonie, comme un seul cœur et un seul esprit, un seul sentiment, une seule pensée, alors ils deviennent une seule chair. Maintenant, écoutez. Ce n'est que lorsque l'Église pourra entrer dans une telle harmonie avec Dieu que la révélation de l'époux se manifestera dans l'épouse. alors ils feront plus qu'un, ils ne seront un. Oh, quelle grande leçon! De quoi s'agit-il aujourd'hui? D'être en conformité, d'être en accord, de devenir un seul cœur et une seule âme, un seul esprit avec lui qui est esprit, être un en esprit avec lui. Et je lis encore une fois, ce n'est que lorsque l'Église pourra entrer dans une telle harmonie avec Dieu que la révélation de l'époux sera manifestée dans l'épouse. C'est à ce moment-là qu'ils deviendront un. Oh, quelle grande leçon! Quelle grande chose! Toi, être un avec Dieu, moi, être un avec Dieu. Nous sommes tous un entre nous alors, dans l'amour divin, dans la persévérance, dans la fidélité, dans la justice, dans la constance, dans la patience, tout ce qui peut subsister devant Dieu afin que nous atteignions l'unité totale, pas l'unité que veulent les hommes, mais l'union divine, comme l'a dit notre Seigneur. Père, toi en moi et moi en eux, afin que nous soyons totalement un. C'est cela l'union divine, l'unité divine, Dieu en Christ, Christ dans l'Église et nous un en lui. C'est cela la grâce et c'est cela l'objectif final. Là, il est écrit ici encore. Vous savez, c'est à dire, la Bible parle de ce qui va arriver à l'Église. Il dit encore ici, citation, comme Dieu l'a dit, si quelqu'un parmi vous est spirituel ou prophète, je lui parlerai. Si ce qu'il dit se produit, écoutez-le. C'est de ça qu'il s'agit. Mais si sa prophétie est fausse, alors Dieu ne peut pas être faux, il ne peut pas être dans l'erreur, il est infini, il est infaillible. Si une prophétie est fausse, cela ne peut pas venir de Dieu. Dieu est tout puissant, il ne peut pas se tromper. Si un homme parle, cela montre l'homme s'il prononce ses propres paroles. Elles échoueront et il échouera. Mais si c'est la parole de Dieu que cet homme prononce, elle ne peut pas échouer. Car c'est Dieu qui parle par cet homme. Dans la parole d'introduction, nous avons entendu Dieu est celui qui parle. Nous croyons que Dieu nous parle par sa parole infaillible. Et nous y répondons. Nous sommes reconnaissants qu'il parle. Il a également écrit ici, citation, alors son inspiration vient de Dieu. L'inspiration de cet homme vient de Dieu. Et il faudra que cela soit juste. Et ce sera juste. C'est ce que Dieu a dit. Qu'il prononce. On pourrait lire beaucoup de choses ici. Il s'agit de l'appel, c'est la prédication, le troisième exorde. Et ici, frère Branham parle de la promesse que Dieu a accomplie autrefois. Des promesses que Dieu a accomplies autrefois en ce temps-là. Et il dit, nous n'avons pas une promesse pour un autre pays sur la terre. Nous avons la plus grande promesse d'être avec le Seigneur auprès de lui pour toujours éternellement. Et c'est à cet accomplissement que nous voulons nous préparer et suivre notre chemin dans la foi avec Dieu. Quoi qu'il arrive, Dieu nous conduira jusqu'au bout. Nous l'avons dit, il s'est écrit dans les Saintes Écritures, celui qui a commencé achèvera. au jour de son retour. Nous sommes un peuple privilégié. Nous, un grand privilège d'entendre la voix du Seigneur en ces jours. Je vous l'ai déjà dit, j'avais appelé un numéro de téléphone et à l'autre bout, on m'a dit, ceci est la voix de Dieu en Allemagne. Ceci est la voix de Dieu en Allemagne. Et c'est une belle chose qui est faite. Et une seule pensée m'est venue à l'esprit. Si seulement tout cela était aussi vrai, s'il y avait vraiment une voix de Dieu sur terre, alors c'est la voix de sa parole. Et nous croyons de tout notre cœur que Dieu a envoyé Frère Branham. Tout comme il a eu un Noé, un Moïse, un Élie et les prophètes, un Jean-Baptiste, un Paul et d'autres hommes de Dieu. Nous croyons de tout cœur que Frère Branham avait un appel extraordinaire pour un ministère extraordinaire. Conformément au plan de salut de notre Dieu, il est venu avec un message qui a précédé la seconde venue de Christ. Mais je crois cela de tout mon cœur et de tout mon âme. Mais je vous dis aussi ce que je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut fermer la Bible et dire je ne la comprends pas. Et que l'on pose une pile de brochures, de prédications sur la table. Et que l'on y choisisse et qu'on recherche dans toutes ces différentes brochures toutes les différentes citations qui correspondent au propre programme et que l'on construise ensuite toujours plus haut et que tout cela soit déjà si haut que la chose atteigne les nuages, n'est-ce pas? Presque le ciel. Mais la Bible est fermée. Non. Et ça, c'est faux. La Bible doit être ouverte et elle doit rester ouverte. Et toutes ces prédications qui sont sorties de cette parole, qui ont été tenues avec cette parole, il faut que tous soient reclassés ici dans la parole de Dieu et gardés dans leur contexte. Tout comme ça. Rien d'autre n'est valable. Qu'a dit Frère Branham? Il a dit, je suis un homme. Je pourrais me tromper. Mais la parole, la Bible est la parole de Dieu et la parole de Dieu est mon absolu. Nous le savons. La parole est venue à Frère Branham et elle nous a ramené à la parole. Elle nous a ramené à la parole. Je ne critique pas. J'ai juste une grande douleur, une grande souffrance dans mon âme à cause des nombreuses dérives et des différents développements causés par des frères. Causés par des frères qui ne connaissent pas en fait la parole de Dieu. Je crois qu'il faut avoir été désigné pour et désigné pour avoir accès et la relation à la parole de Dieu. On ne peut pas simplement venir et dire bien-aimé Dieu, maintenant je suis ici, je vais faire ceci et cela. Alors s'accomplit ce que disait Frère Branham. Rendre un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Non, le temps est là de faire abstraction et mettre de côté toutes ces choses et de sonder le message de l'heure à la lumière de la parole de Dieu et de lire la Bible à la lumière du message. L'un verse la lumière sur l'autre. L'une chose est verse la lumière sur l'autre. Si je lis la Bible, les choses qui s'y trouvent m'apparaissent encore plus clairement. Si je lis les prédications, la Bible s'éclaire encore plus pour moi. Alléluia! Gloire à Dieu! C'est ainsi que ça doit être. C'est ce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas séparer l'un de l'autre. Non. Dieu ne voulait pas une nouvelle organisation. Dieu voulait la proclamation et l'appel à sortir de l'église épouse. Qu'avons-nous reçu entre-temps? Les orientations les plus diverses. Et à ce sujet, le cœur se brise. Car il y a des gens qui sont liés à la cause de Dieu, aux choses de Dieu, et j'en fais partie. Je suis lié à la cause de Dieu, à la chose de Dieu, aux choses qui viennent de Dieu. Je me mets à la place des deux dames qui, dans les jours de Salomon, vinrent à lui, et les deux prétendaient que l'enfant leur appartient, chacune d'elles. Voilà deux femmes qui disent que cet enfant unique là leur appartient. Les deux le disent. Et Salomon avait une sagesse exubérante. Il dit, asseyez-vous, donnez-moi l'enfant et apportez-moi un très grand couteau. Et je partagerai ensuite l'enfant et j'en donnerai la moitié à chacun, à chacune. Et l'une des femmes dit, oui, ça c'est bien, il faut le faire. Et l'autre a dit, mon Dieu, ne le fais pas, s'il te plaît. Donne-lui l'enfant. Mais ne le partage pas, ne le divise pas. Donne-lui. Et Salomon a dit, ça c'est la mère. Donnez-lui l'enfant. Amen. Il y a aujourd'hui beaucoup qui n'ont pas l'épée de l'esprit. Mais ils ont un sabre. Ils le brandissent quand il le faut. Et avec ça, ils divisent quand ils le veulent. Sans douleur. Cela ne les dérange pas du tout. Run and roll. Diviser pour mieux régner. Pas avec moi. Je fais partie du corps de Jésus-Christ. Celui qui veut diviser le corps de Christ ne peut pas le faire sans que je ressente de la douleur. Et je ne me contente pas de le dire. Je ressens la douleur profonde de toutes ces divisions, toutes ces séparations, ces discordes. Parfois, je peux à peine le supporter. Le temps viendra où tous les vrais croyants reviendront sur terre, sur le sol des faits, et laisseront la parole de Dieu être leur fondement unique, leur base, et bâtiront tout le reste sur ce fondement-là et sur aucun autre. C'était la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu aujourd'hui encore, directement jusqu'à la fin. Si je suis mal compris, c'est parce que je m'en tiens à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seul. Si j'allais dans les différentes directions différentes, tout irait bien, n'est-ce pas? Chez les hommes, mais pas chez Dieu. Et pas devant Dieu, devant les hommes, mais pas devant Dieu. Et Paul écrit dans Galates 1, verset 10, si je veux encore plaire aux hommes, je ne suis pas serviteur du Christ. On ne peut pas plaire aux hommes et à Dieu en même temps. On ne peut pas faire ce que les hommes veulent et ce que Dieu veut en même temps. Ma décision est prise. Je suis né pour cela. J'ai été mis au monde pour cela. Placé dans le monde pour cela, pour témoigner de la vérité. Je suis né de nouveau pour proclamer la parole. Que moi et tous ceux qui l'entendent, nous subsisterons devant Dieu. on est quand même mal compris. Je l'ai remarqué maintenant en Afrique du Sud. J'avais mentionné très brièvement ce que le Seigneur m'avait dit, que je ne devais pas non plus publier de livres de cantiques, éditer de livres de cantiques, ni fonder d'églises locales. Et il y avait déjà un grand malentendu. Et les frères ont dit, oui alors, ça veut dire que les églises libres sont fausses. Alors nous ne pouvons pas non plus chanter à partir d'un livre de cantiques. Je me suis mis les mains sur la tête et je me suis demandé, mais comment il est possible de toujours mal comprendre les choses et les sorties de contexte, que des gens portent autant de folie ici, plus qu'on ne peut en porter. Plus qu'on ne peut emporter tant de folie. Nous chantons à partir de nombreux livres. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour les livres de chants, de cantiques. Il y a tout de même une très grande différence entre le fait que le Seigneur me dise à moi de ne pas publier de livres de cantiques. Parce que c'est le signe d'une dénomination. Aussi, nous chantons ici à partir de livres de chants que d'autres ont édités. Mais ceux qui veulent mal comprendre entendent simplement que quelque chose soit dit, arrive, et ils se jettent dessus comme un faucon, n'est-ce pas? Comme le faucon. Mais tout cela n'est pas du tout nécessaire. Ce sont des malentendus. Je crois que c'est un animal de proie. Ils sont un oiseau. Ils sont intégrés dans le cœur. Ces malentendus sont intégrés dans le cœur de ces gens-là. Mais nous sommes, je le répète, reconnaissants pour les magnifiques cantiques, en particulier les chants de Pentecôte et les chants dans le livre de la vérité appelé Vérité. Chant de vérité, tous les différents livres de chants. Mais si vous revenez en arrière et observez comment ils ont été créés, édités, c'est toujours une certaine dénomination qui a réuni les chants de son choix. Et c'était leur uniformisation. Toutes les églises locales qui appartenaient à la même chose, ont toutes chanté partout à partir du même livre de cantiques. C'est comme ça chez les baptistes, chez les méthodistes, chez tous dans l'église évangélique, partout. Tous avaient en quelque sorte un livre de chant particulier. Je disais cela pour vous montrer à quel point les malentendus peuvent vite arriver. Nous vivons dans une autre époque. Il n'y aura plus d'autre organisation. C'est maintenant que l'épouse est appelée à sortir. Maintenant, on ne réorganise pas. Maintenant, l'organisme de Dieu se réunit. Et l'organisme, c'est la mécanique. Et ensuite, la dynamique doit venir dans la mécanique. Et ensuite, la dynamique doit venir pour révéler, manifester la puissance de Dieu. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur de nous avoir donné la clarté et de l'avoir maintenue et de nous avoir maintenu en elle et de la maintenir jusqu'à la fin en toutes choses. En ce qui concerne les églises locales, vous savez très bien que je crois de tout cœur qu'elles sont bibliques. Je souhaite à tous les frères, dans leurs églises locales, les riches bénédictions de Dieu. Mais je ne peux pas aller dans une ville ou un pays pour y fonder une église. Je ne peux que partir et annoncer la parole. Je laisse le reste à Dieu et à ceux qui sont dans l'église ou la localité locale. Nous sommes également reconnaissants au Seigneur pour ce week-end. Personnellement, j'ai pu y puiser beaucoup de choses. J'ai été approfondi dans les choses de Dieu. Et je pense que nous pouvons tous en dire autant. Nous avons pu puiser des bénédictions et nous les emporterons avec nous. Est-ce vrai? Amen. Combien d'entre vous aiment le Seigneur de tout leur cœur? Amen, amen. Combien se réjouissent de la parole révélée? Amen, amen. Est-elle vraiment devenue grande pour vous? Vous est-elle devenue chère et précieuse? Pouvez-vous la manger? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. C'est de cela que nous vivons. Rendons grâce au Seigneur. Je ne peux que dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, que celui qui a commencé, il achèvera. En toi aussi. Et en moi. En nous tous. Nous ne laisserons rien. Nous ne laisserons rien. Il en était déjà ainsi au temps de Moïse. Le Pharaon voulait conclure un accord avec Moïse. Laisse ici les choses, laisse ici les choses. Laisse-les ici, et Moïse répondit. Pas une griffe ne restera, rien qui nous appartient restera. Tout ce qui nous appartient part avec nous. Ceux qui resteront, c'est vous qui n'êtes pas des nôtres. Mais nous sortons tel que Dieu l'a promis. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Dieu a ouvert la voie à son peuple. Mais le chemin de Dieu n'est destiné qu'aux siens. Lorsque Pharaon et son armée ont voulu emprunter ce beau chemin tracé par Dieu et qu'ils se sont précipités à la suite du peuple de Dieu, Dieu a touché les deux murs qui étaient là, faits d'eau. Il les a un peu touchés. Et puis, ils ont tous été enterrés. Englouti, c'était le plus grand enterrement dont on n'a jamais entendu parler. Un bel enterrement. Une armée entière. D'un seul coup. Le chemin du Seigneur est seulement pour les racheter. Pas pour les ennemis qui les poursuivent. Ils y périssent. Ce qui est salutaire pour l'un peut être fatal pour l'autre. Nous avons lu que nous avons été destinés pour le salut qui sera révélé dans les derniers jours, manifesté dans les derniers jours. Et rappelez-vous la parole que frère Schmitt a lue, tirée des Proverbes. Ce sera un remède pour ton âme et un baume pour tes membres si nous nous attachons à la parole de Dieu. Grâce soit rendue au Dieu Tout-Puissant. Louange, gloire, honneur et adoration pour ce qu'il a fait, pour sa grâce, pour son amour, pour sa parole, pour son esprit, pour toute l'œuvre de la rédemption. Qu'il soit également remercié pour les racheter. Qu'il soit remercié pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Dieu fidèle, nous te remercions maintenant à la fin de cette réunion pour ta grande grâce, pour ton grand amour, pour ta grande miséricorde que tu as eue pour nous jusqu'à cette heure. Ô Seigneur, nous te remercions, ô Seigneur, des profondeurs de nos cœurs pour ta précieuse parole, mon Dieu, pour la révélation, Seigneur, pour les promesses que tu as faites. Seigneur, nous voyons que tout s'accomplit en notre temps, en nos jours. Seigneur, ce qui était caché depuis si longtemps, Seigneur, tu l'as fait connaître. Oh Seigneur, nous nous réjouissons en toi, Seigneur, dans le Dieu vivant. Seigneur, et nous te rendons gloire, louange et adoration. Seigneur, nous te prions de remplir tous nos cœurs maintenant, de nous remplir tous de ta puissance d'en haut. Nous avons de plus en plus besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur. Baptise-nous d'esprit et de feu, ô Seigneur, mon Dieu. Enlève tout ce qui fait obstacle à ton esprit, ô Seigneur, et que tu puisses te glorifier. Ô Seigneur, c'est notre prière au nom de Jésus. Alléluia, gloire et louange et reconnaissance te soient apportées. Nous te remercions. Je te remercie pour chaque frère, pour chaque sœur, pour tous ceux que tu as appelés de tous les peuples, de toutes les langues et de toutes les nations, de partout, Seigneur. Tu appelles les tiens, ô Seigneur, adoration, et tu veux les préparer pour ton apparition, car tu apparaîtras et tu prendras les siens auprès de toi. Gloire à ton Saint-Nom, alléluia. Ô béni Seigneur, béni tous, ô Seigneur. Mon Dieu, c'est notre prière, c'est notre désir. Au nom de Jésus, alléluia. Amen, alléluia.